Radio Okapi. Bilivan Lutumba pour le journal.
Plus de 3000 cas de violation des droits de l'homme recensés durant le premier semestre 2018 par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il parle d'une forte augmentation par rapport à la même période de l'année dernière. Dossier Alexis Tambwe-Mwamba contre les journalistes congolais regroupés au sein de l'Union de la presse du Congo, UNPC. Nous en parlons dans cette édition avec ce coup de gueule et de colère de la corporation qui accorde 48 heures au ministre pour faire amende honorable à la suite de ses propos injurieux. Radio Okapi reçoit dans cette édition comme invité Kambale Ngeleza, consultant des entreprises et expert en exportation des produits agricoles à Beni. Il parle de la crise observée dans ce secteur. Votre choix de Radio Okapi pour vous informer n'est pas vain. Les nouvelles, nous vous les donnons dans toute leur diversité. Bienvenue, bonsoir à tous. La situation des droits de l'homme en RDC s'est détériorée durant le premier semestre 2018. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté durant cette période plus de 3000 violations des droits de l'homme. Il parle d'une forte augmentation par rapport à cette même période l'année dernière avec 2822 violations. Ces chiffres ont été fournis ce mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Selon le Bureau conjoint, cette augmentation globale est préoccupante au regard des violations de plus en plus généralisées des droits civils et politiques et au moment où le pays se prépare aux élections. Le directeur du BCNUDH donne ici les causes qui ont favorisé cette aggravation de la situation des droits de l'homme. Il est au micro de Jean-Pierre Elali, Coco.
Il y a plusieurs facettes qui en ont mis de compte. Il y a le conflit, l'extension des zones de conflit. Cette année, on a eu beaucoup d'incidents au Maniema. Kassai continue toujours, même si on n'est plus à la même ampleur. Mais surtout le Nord-Kivu. Et je vous ai dit que la province qui arrive en tête de liste parmi les provinces affectées par le conflit où nous avons enregistré le plus grand nombre de violations des droits de l'homme, c'est le Nord-Kivu. Et c'est l'endroit en RDC où vous rencontrez le plus grand nombre de groupes armés et de milices au mètre carré. La présence des groupes armés entraîne des opérations militaires. Et les opérations militaires génèrent des violations des droits de l'homme également. Donc ça, c'est les violations des droits de l'homme liées au conflit. Mais de l'autre côté, nous avons aussi des violations des droits de l'homme qui sont liées à ce que nous appelons les restrictions à l'espace démocratique, c'est-à-dire les restrictions des droits civils et politiques, notamment le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de réunion pacifique, mais également le droit à la liberté d'association. Alors, vous avez vu, entre janvier et le mois de mars, les répressions violentes des manifestations à Kinshasa.
Autre chose, l'ONU célèbre ce mercredi le 18 juillet 2018 le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. À Kinshasa, les manifestations ont été organisées à l'hôpital Saint-Joseph en présence du représentant spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies en RDC, de l'ambassadeur sud-africain ainsi que de la ministre de la Culture. Suivez plutôt ce reportage d'Honoré Missenga Kalala.
Pour David Gisli, il s'agit d'un événement très important qui rappelle la vie de Madiba dans tous ses aspects, le représentant spécial adjoint.
Je crois que c'est une journée importante pour repérer tous les aspects de sa vie, la lutte, le fait qu'il a montré le besoin pour l'unité, pour la tolérance, pour le bien-être de tous les êtres humains. Ce sont des valeurs universelles qu'on doit appliquer, pas seulement dans son pays natal, mais partout, y compris ici au Congo.
La ministre de la Culture a représenté le gouvernement de la RDC à cette cérémonie. Madame Astrid Madia n'a pas non plus tari d'éloge à l'icône sud-africaine, en qui elle reconnaît un grand personnage du monde qui a légué un grand héritage.
Nelson Mandela est un grand personnage du monde et nous a laissé un héritage terrible. Il nous a appris à respecter la valeur de la vie d'un homme.
Au-delà des discours, l'hôpital Saint-Joseph n'a pas servi que de cadre d'accueil à ces manifestations d'hommage à Nelson Mandela. Plusieurs activités d'utilité publique y ont été réalisées, travaux d'assainissement du site, crépissage et nouvelles couches de peinture sur les murs de l'hôpital, séances de consultation médicale, autant d'actions dans lesquelles étaient impliquées non seulement des agences des Nations Unies, mais aussi des volontaires venus des divers services publics et privés.
Signature de la charte du collectif d'action de la société civile Casque ce mercredi 18 juillet ici à Kinshasa. Casque est une plateforme qui réunit des organisations de défense des droits de l'homme et des mouvements citoyens parmi lesquels l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ Filimbi, la lutte pour le changement et Il est temps. Selon Herman Mboua, membre de Il est temps et porte-parole du Casque, l'objectif de cette plateforme est de donner une impulsion au processus électoral en cours en RDC. Herman Mboua le dit à Paul Matendo.
Notre combat, c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour que nous ayons des élections crédibles, libres et transparentes. Pas des élections falsifiées, des élections boutiquées pour l'intérêt d'un seul camp. Des élections où tous les Congolais auront le même chance, candidat ou comme électeur. Des élections où tous les Congolais auront des voix qui vont certainement peser dans la balance pour faire le sort définitif de ces pays.
La CENI est en train de respecter le calendrier électoral. Qu'est-ce qui vous amène à créer un mouvement comme celui-là?
Non, il ne faut pas me parler du calendrier de la CENI. Les périodes qui sont dans les calendriers semblent être respectées malgré tout, mais le bout de ces calendriers ne nous rassure pas. Il y a aussi un aspect qui n'est pas légal, qui s'accroche à ces calendriers. Ici, je vois la machine à voter. C'est d'abord, un, elle est illégale, et puis de deux, elle n'est pas inscrite dans le calendrier de M. Nanga.
Parlons à présent de ces déclarations de la MONUSCO qui affirme qu'elle va collaborer étroitement avec les autorités provinciales du Haut-Katanga dans la lutte contre la montée des cas de criminalité enregistrés ces derniers temps à Lubumbashi et dans d'autres villes de la province. La représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies l'a déclaré ce mercredi à Lubumbashi. C'était après sa rencontre avec le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pande Kapopo. Madame Leila Zerogi a par la même occasion appelé la population à éviter de se faire justice en cas de criminalité. Leila Zerogi l'a dit au micro de Colin Juma Moussompo.
Avec le gouvernement, on a promis qu'on va continuer de se voir pour justement voir comment on peut ensemble travailler sur un appui à la justice et à la police pour faire en sorte que les mesures qui sont prises par les autorités, qui sont les plus importantes, soient renforcées pour lutter contre ce phénomène. Je soulignais à son excellence que dans beaucoup de pays, si on ne prend pas garde à ce genre de violence armée criminelle, on se retrouve avec des gangs qui deviennent plus puissants que les institutions d'État. Et c'est très dangereux. Donc il ne faut pas permettre ça. Il faut que la population contribue à ce que ce phénomène soit éradiqué. Pas par la vengeance et brûler les gens vifs sans leur donner le temps d'être jugés. On est tous innocents jusqu'à preuve du contraire et on doit tous répondre devant une justice qui doit être juste et équitable parce que c'est comme ça qu'on construit l'État et c'est comme ça qu'on construit la paix durable. Et on fera de notre mieux pour appuyer les autorités pour lutter contre ce phénomène.
Le secrétaire en charge de la jeunesse étudiantine ouvrière et des œuvres du Parti courant des démocrates rénovateurs CDR de Jean-Lucien Boussa a décidé de quitter le CDR. Dans une lettre adressée au président d'intérim du parti et dont copie nous est parvenue sur Radio Capi, l'intéressé exprime le mobile de sa décision. Andy Bassembe Lombo justifie sa position suite à l'adhésion du Parti courant des démocrates rénovateurs CDR au Front commun pour le Congo, FCC, que préside Joseph Kabila. On l'écoute au micro de Marco Molumba. Nous parlions de cette démission du secrétaire général en charge de la jeunesse étudiantine, ouvrière et désœuvrée du parti courant des démocrates rénovateurs CDR de Jean-Lucien Boussa qui a décidé de quitter le CDR. On l'écoute au micro de Marco Mlumba.
En fait, je vous confirme que ma démission a été bel et bien enregistrée aujourd'hui dans les services administratifs du parti CDR, mon ancien parti. Et cet acte a été motivé simplement par la nouvelle orientation qui a été prise par mon parti en allant adhérer à cette plateforme électorale qui est le Front commun pour le Congo FCC.
Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la démarche du CDR? D'adhérer au Front commun pour le Congo.
Adhérer au FCC, c'est carrément faire une adhésion à la majorité présidentielle. Nous savons tous que cette majorité a depuis lors été celle qui a initié des tentatives de révision constitutionnelle, a été à la base du manque d'élections jusqu'à ce jour. Et nous voyons très bien les manœuvres qui continuent à démarrer dans ces sens-là. Alors je conçois et pas cohérent de pouvoir poser un tel acte qui, en principe, nous met en contradiction avec nos discours antérieurs.
Contacter l'autorité morale du parti CDR dit ignorer la qualité du démissionnaire au sein de ce parti. Nous Nous en sommes maintenant à ce coup de colère de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC qui est mécontente des propos tenus par le ministre de la Justice Alexis Thambwe Mwamba lundi dernier à l'endroit des journalistes congolais. Dans un communiqué qui date d'hier, l'UNPC donne 48 heures au ministre Thambwe Mwamba pour retirer ses propos qualifiant les journalistes, je cite, de minables, misérables et des personnes qui écrivent n'importe quoi peu pour peu d'argent, 1000 ou 1500 dollars de Moïse Katumbi. Fin de citation. Joseph Bukar Kasonga Chilonde, président de l'UNPC, est joint au téléphone par Askenziga Tayoro.
Je vais vérifier tout à l'heure parce que je suis encore en route si la lettre lui a été déposée hier après-midi, parce que les 48 heures ne peuvent compter qu'à partir du moment où ses services vont réceptionner notre courrier lui demandant cela. S'il ne réagit pas dans les 48 heures, à partir du moment de la réception de la lettre, nous allons nous réunir pour voir des mesures que nous pouvons prendre pour comme rétorsion. Il y en a beaucoup.
Donc une mesure d'embargo peut aussi être infligée au ministre.
Oui, c'est aussi une possibilité. C'est tout ce que nous avons comme arme. Le journaliste n'a pas d'autre mesure que de prendre des mesures de ce genre-là pour faire entendre sa voix.
Mais vous pensez que les propos tels qu'avancés par le ministre d'État Alexis Thambwe Mwamba, ça reflète une réalité ou pas?
Je ne sais pas au niveau de la réalité ou pas. S'il veut parler des journalistes corrompus, mais les plus corrompus de la République sont les ministres. Hein? On les corrompt tous les jours ici et ils corrompent tous les jours ici.
À Monkoto, dans la Chuapa, la population déplore le détournement des plus de 400 millions de francs congolais par le député national Ekofo Panzoko. Il s'agit de l'assistance du gouvernement central aux victimes du naufrage d'un convoi des pirogues motorisées le 22 mai dernier. Selon la société civile provinciale, l'enveloppe totale décaissée par le gouvernement central était de 441 millions de francs congolais. Mais l'élu de Monkoto, qui est allé retirer ses fonds à Boende, n'a pu présenter qu'environ 30 millions pour les sinistrés. Éclairage avec Paul-Richard Malingela.
Le point focal des affaires humanitaires de Monkoto, qui a procédé à la remise de cette assistance gouvernementale, ne reconnaît qu'un montant de 17 millions de francs congolais et non les 30 millions tels qu'annoncés par le député national Ekofo. C'est pourquoi il n'a pu servir qu'une partie des sinistrés. 15 familles éprouvées sur les 50 décédés ont reçu chacune 500 000 francs congolais, tandis que 60 rescapés parmi les 84 enregistrés ont bénéficié de 170 000 francs congolais par personne. Célestin Ngelemba, un des notables qui revient de Monkoto, exprime l'indignation de toute la communauté.
Dans la chaîne de dépenses, il va avoir cet argent, 441 millions de francs congolais pour la population de Monkoto. La population n'a vu que moins de 30 millions. Le reste est allé où? Que les procureurs généraux de la République poussent. Vous voyez les gens au niveau du ministère et au niveau de la Chouapa pour vérifier. Dans Tewafanya et le Sombo, il y a des ponts qui sont abîmés, mais avec le solde de cet argent, on pouvait même jeter les ponts. Toute la communauté s'est plainte.
Contactez le député national Ekofo Panzoko, qui est resté constamment en réunion, a promis de réagir plus tard. Rappelons que ce naufrage a eu lieu en mai dernier sur la Momboyo au large de Wapanya, dans la province de la Chuapa. 50 personnes y avaient trouvé la mort, ainsi que 84 rescapés, des commerçants en majorité, qui allaient vendre leurs produits en Bandaka et avaient tout perdu. Bandaka pour Chamalenge, la radio Okapi.
Allons à l'est du pays avec cette patrouille de combat des FRDC qui est arrivée ce mercredi matin à Kahira, c'est à 27 km au sud de Kichanga, groupement Bachali-Mokoto, territoire de Masisi. Cette localité était le théâtre dimanche d'affrontements entre les combattants de NDC Rénové qui se seraient retirés tôt ce matin à l'Eniatura du général autoproclamé Kavumbi. Pour un notable de la région, une patrouille de combat ne suffit pas, il faudrait une force qui sera permanente sur place pour assurer la sécurité de la population. Ce notable s'exprime sous anonymat et joint par Gisèle Cage.
Nous demandons au gouvernement de ne pas venir et repartir le lendemain. Nous qui dénonçons ces choses, si ces combattants revenaient, nous serons leurs victimes. Comme le NDC vient de quitter, que d'autres groupes armés ne reviennent plus chez nous. Nous voulons être protégés par le gouvernement, car nous sommes fils de ces pays. Mais ça nous surprend toujours, quand bien même le gouvernement entend nos cris, ne réagit pas. Depuis le village Matimana, Kalungu, le gouvernement est absent. Les militaires peuvent arriver aujourd'hui et repartent le lendemain. C'est lui qui avait caché son arme. Après le départ des FARDC, il la récupère et va encore tracasser la population. Ceux qui nous maltraitent sont ceux avec qui nous parlons la même langue. Nous sommes nés ensemble. Ils ne veulent pas aller dans les FARDC lors du mixage ou passage dans l'armée et préfèrent cacher leurs armes.
Du côté de l'armée, le porte-parole de l'opération Sokola Donné ne dit pas clairement si ces militaires arrivés à Kahira vont y demeurer. Le major indiqué qu'Aïko rassure toutefois la population que tant qu'elle sera en danger permanent, l'armée sera là pour la sécuriser. Dans la même province, paralysie des activités depuis ce mardi au tribunal de grande instance de Boutembo. Les avocats et défenseurs judiciaires de cette ville refusent de prester devant cette instance en dénonçant ce qu'ils qualifient des concussions impliquant l'un des juges de cette juridiction. L'élément déclencheur était un enregistrement audio circulant sur les réseaux sociaux impliquant un juge du TGI Boutembo qui exige à un justiciable une importante somme d'argent afin de sortir un jugement. Les avocats et défenseurs judiciaires conditionnent la reprise de leurs prestations par l'identification de l'incriminé dont ils exigent des sanctions. En réaction, Valérie Moali, procureur près le TGI Boutembo, annonce l'ouverture d'une enquête. Il est au téléphone de Martial Papimoukeba.
Par rapport aux faits, nous avons ouvert une information judiciaire pour faire toute la lumière sur ces présumés de confusion dont se serait rendu un magistrat de siège. Mais quant à la procédure que certains conseils ont choisi de suivre, moi je parle plutôt d'un mal procédé. Ils savent ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on est en présence de faits infractionnels. Ils ne les ont pas dénoncés formellement auprès de nous. Ils sont tentés de faire des dénonciations sur les réseaux sociaux en d'autres lieux que devant les instances judiciaires que nous sommes. Nous avons ouvert, comme je l'ai dit, une information judiciaire et nous allons enquêter là-dessus. Et ce serait prématuré, à mon sens, de devoir battre toutes les cartes ici et de dévoiler les conclusions des enquêtes qui viennent à peine d'être ouvertes. Si ces faits sont avérés, ce sont des faits extrêmement graves.
Actualité Afrique Monde.
Nous commençons par le Zimbabwe où Nelson Chamisa du mouvement de l'opposition en appelle aux observateurs africains. Après avoir dénoncé le manque de transparence dans l'impression des bulletins de vote et réclamé un audit indépendant des listes électorales, le leader du MDC exige un sommet extraordinaire afin d'éliminer tous les doutes qui planent sur la crédibilité de ce scrutin très attendu. Nelson Chamisa, qui est un leader de ce parti, a dénoncé le manque d'impartialité lors du vote des militaires qui a eu lieu la semaine dernière. En dépit de ces craintes, l'opposition ne compte pas boycotter cette élection et prévoit même d'obtenir l'avis des partis civils sur sa proposition de sommet extraordinaire avant les élections générales. Plus au nord de l'Afrique, l'Égypte met à l'abri certains des cadres supérieurs de son armée. Lundi, une loi relative à leur immunité judiciaire a été adoptée. Elle ne concerne que les officiers supérieurs impliqués dans des faits ayant eu lieu entre juillet 2013 et juin 2014. Ces dates correspondent à la destitution par l'armée de l'ancien président Mohamed Morsi et arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sissi, à l'époque chef de l'institution militaire. Il se nomme Christopher Litogé et de nationalité britannique qui est âgé de 32 ans. Cet homme, chef du National Action, un groupe de néo-nazis agrippés aux idées ségrégationnistes d'Adolf Hitler, a été condamné à passer 8 ans de sa vie derrière les barreaux. Mais il n'y a pas que lui à la tête du National Action, un groupe de néo-nazis qui n'a pas droit d'existence en Grande-Bretagne. Litogé a été reconnu coupable par le jury de la Cour criminelle de l'Old Delhi pour appartenance à un groupe interdit.